C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de vous souhaiter une bonne année. C'est vrai, on peut traverser personnellement des situations compliquées, des situations de joie, des fardeaux que Dieu place sur nos cœurs. Mais voilà, je prie que cette année soit une année où on apprenne encore à connaître plus intimement le Seigneur dans les circonstances qui sont les nôtres en tant que personne, en tant qu'individu, en tant que famille, aussi en tant qu'Église. Je suis encouragé de voir notre sœur Élisabeth parmi nous. De voir la petite Ambre, sa première venue aussi, et chacun d'entre vous, voir vos visages, on veut penser à ceux qui sont alités, retenus. Alors, pour cette année, j'aimerais nous embarquer dans une petite série, comme l'a dit Steven, que j'ai intitulée Résolution, Vision d'Église. Alors, l'Église existe depuis des dizaines et des dizaines d'années. Elle est passée par tout un tas d'étapes, de saisons. En novembre cette année, j'ai vu dans les dates un peu clés, ce sont les 90 ans de notre bâtiment. Alors entre-temps, il a subi des transformations, des destructions aussi avec la guerre. Mais voilà, en novembre, ce sera les 90 ans. Et c'est vrai, l'Église, on l'a déjà partagé, est engagée dans une démarche pour travailler, pour réfléchir à notre vie d'Église, à notre vision d'Église, à nos valeurs, à ce qui fait notre identité, notre souhait en tant que responsable avec Mathieu, c'est que cette année puisse nous aider à faire un pas de plus dans notre découverte, dans ces réflexions sur ce mandat d'être témoin du Seigneur aujourd'hui, en 2024, dans ce coin de France et dans cette partie du monde. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Alors, je ne connais pas les étapes qu'on va vivre devant nous. Dieu seul les connaît. Mais on a besoin de prier, bien évidemment, pour que Dieu nous conduise en tant qu'Église. Il y a un groupe de travail qui va nous aider à réfléchir aussi tout cela. Mais alors que sous cette année, j'avais avec Mathieu aussi le désir de vous partager trois axes. En tout cas, ce matin, il y a trois axes. Peut-être que au fur et à mesure des semaines qui vont passer, il y aura plus. Mais j'aimerais regarder trois pistes de réflexion, trois directions, trois grandes lignes pour alimenter nos réflexions. Trois éléments que le Seigneur m'a mis à cœur de rappeler et de vivre, qu'on aimerait vivre aussi dans l'Église, et on a déjà entendu un certain nombre d'éléments ce matin. Un cap. Et ce matin, j'aimerais regarder avec vous ce que j'ai intitulé comme Steven, il n'y a pas beaucoup de diapos, peut-être ça marche pas. Une Église qui a une foi publique. Une foi publique. Une vision publique. Alors j'ai petite parenthèse, hein, on fait partie d'une famille d'églises, les évangéliques, et notamment le CNEF, et le mois dernier, ils ont voté un manifeste pour ensemble se mobiliser à être un témoin dans ce monde, d'annoncer l'évangile de façon intentionnelle à nos contemporains, et en tout cas d'y réfléchir. Alors sans rentrer, en France, on a la subtilité de la laïcité. Quand on parle témoignage public, on pense peut-être à qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais néanmoins, on est dans une culture où, et j'ai entendu ça d'un collègue qui a utilisé cette illustration, que notre foi, ce serait comme une cigarette. Alors je vais m'expliquer. Nuisible. La cigarette, on sait, c'est nuisible, c'est toxique. Et aujourd'hui, on le voit, c'est affiché partout, hein. On n'a pas le droit de fumer dans des lieux publics. Alors si tu veux fumer, consomme ta cigarette, et si tu trouves que c'est bon pour toi, tu le fais dans le lieu privé. Tu le gardes, voilà. Aujourd'hui, de moins en moins de lieux, les fumeurs trouvent un endroit où ils aient la liberté de fumer. Et on est dans une culture, pour la foi, c'est la même chose. C'est quelque chose de dangereux, limite. C'est limite nocif. Si c'est bon pour toi, c'est bien, mais voilà, ne va pas trop loin. La foi, pour beaucoup de gens, doit être cantonnée à la sphère privée, à son chez-soi. Ça t'appartient. Mais en entendant les témoignages, on le sait, quand on vit l'évangile, quand on a été racheté par le Seigneur, on n'a pas envie de le garder. On a envie de le partager. Avec mon beau-frère à Noël, on partageait aussi avec les repas de famille. On a des frères et sœurs qui n'appartiennent pas au Seigneur. On voit parfois leur vie dramatique de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Alors ils ont des soucis comme nous, mais ils ont aucune espérance, aucun espoir. Et on voit ça, on limite, ça descend de plus en plus. Il n'y a aucun espoir dans ce monde. On se dit, waouh, on a un message. Et c'est vrai, notre foi, c'est quelque chose de qu'on peut partager et qu'on est appelé à partager parce que c'est quelque chose de généreux, de libérateur, de qui restaure. Et c'est vraiment ce premier axe que j'aimerais voir avec vous, c'est voilà, ayons une foi cette année publique. Vivons-la ouvertement, vivons-la intentionnellement, vivons-la de façon visible. Alors je dis pas agressif, je dis pas intrusif, je dis pas tout ce qu'on peut parfois marteler, non. De façon publique, sereine. De manière à ce que cela bénisse les gens, de ce que cela bénisse nos familles, nos entourages, nos villes. Et pour cela, pour ce matin, j'aimerais, pour nous encourager, on va pas révolutionner nos découvertes, mais j'aimerais le faire avec un texte dans le livre des Actes, au chapitre 8. Pour planter le contexte de ce chapitre, début acte, Jésus ressuscité, Jésus élevé, Jésus qui quitte ses disciples l'ont vu, sont transformés en témoins par la puissance du Saint-Esprit qui est déversée sur ses enfants. Les disciples maintenant proclament cette bonne nouvelle hein, de qui est Jésus. On a vu Marc en fin d'année, qui est Jésus. Ils ont raconté de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Et on voit dans le début des livres des Actes que les disciples, le nombre, les chrétiens se multiplient dans Jérusalem. L'Église grandit. Il y a eu une soif, il y a un réveil. Et soudainement, là, pour ceux qui l'ont lu, moi je l'ai lu cette semaine, il y a une persécution qui éclate. Étienne, un des leaders, un des responsables d'église, nommé diacre, un homme plein de foi, on dit de lui, d'Esprit Saint, de sagesse, est mis à mort et lapidé. Et il y a une persécution qui s'intensifie contre les chrétiens de Jérusalem, contre l'Église, et c'est là qu'on prend l'histoire en route, et j'aimerais vraiment vous encourager à lire le texte dans vos Bibles, dans Acte 8, les 8 premiers versets. Saul approuvait l'exécution d'Étienne. Ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'Église de Jérusalem et tous, à l'exception des apôtres, se dispersèrent dans les diverses régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux enterrèrent Étienne et le pleurèrent beaucoup. Il y a la place pour la souffrance, il y a la place pour les pleurs. Quant à Saul, il cherchait à détruire l'Église. Il pénétrait dans les maisons et en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu et annonçait la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans la ville de Samarie et y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les signes miraculeux qu'il accomplissait. En effet, des esprits impurs sortaient de beaucoup de démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. C'est ce que j'aimerais vraiment qu'on puisse vivre aussi. À Wittenheim, dans nos villes, dans nos familles, une foi qui est vécue publiquement, ouvertement, et qui produit un résultat, une joie. Et pour nous aider un peu à réfléchir à ce que le texte nous dit, j'aimerais simplement voir 4 questions qui nous aident en toute simplicité à comprendre cette histoire, de regarder qui est allé, à qui ils ont prêché, qu'est-ce qu'ils ont prêché et quel a été le résultat. Je voudrais simplement prier encore. Seigneur, on a désir à ce que ta parole nous parle. Merci parce que c'est vrai, depuis la Pentecôte, tes enfants sont revêtus de ton esprit, ta présence en nous. C'est vrai, alors que s'ouvre une nouvelle année, notre désir est de t'entendre et d'être un témoin de toi, parce qu'on réalise la bonne nouvelle qui a été déversée sur nous, que nous sommes appelés à répandre. À répandre lorsqu'il y a des blessures, lorsqu'il y a des pleurs, lorsqu'il y a de la souffrance. Nous avons à annoncer la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Seigneur, lorsqu'il y a des bruits de guerre, des troubles autour de nous, Seigneur, nous sommes appelés à partager l'espérance. Seigneur, lorsque les hommes s'attachent à de faux espoirs, nous sommes appelés à partager l'espérance. Et je prie que ta parole ce matin encore nous visite, nous interpelle et nous encourage pour la gloire de ton nom. Amen. Alors vous l'avez lu hein, au début du chapitre, il y a là cette question de la grande persécution qui éclate contre l'Église. Et le texte nous dit que les croyants fuient. C'est tellement dangereux de rester sur Jérusalem qu'ils se dispersent. Le verset 1, le verset 4 nous dit « ils se dispersent ». Et là, j'aime ce texte parce qu'il fait écho aussi à Marc 4 avec cette nécessité de semer quel que soit le terrain. Et le mot « disperser », c'est « épandre des semences ». C'est la même racine, c'est fort. Dans le premier, vous avez vu dans les premiers versets, on a Saul, qui va devenir l'apôtre Paul, qui est un des plus fervents, qui à l'encontre de l'Église, qui cherche, le texte nous dit, cherche à détruire l'Église. Il allait dans les maisons. Donc là, il n'y a même plus la question de la foi privée, parce que aller dans les maisons, c'est montrer aussi que c'est plus juste la foi publique. Ils en arrachaient les hommes et les femmes pour les jeter en prison. Jusque dans les maisons, jusque dans la sphère privée, il y a une opposition. Clairement, c'est un contexte pas du tout favorable à avoir une foi publique. Hein, vous êtes d'accord? Au contraire, là, on se dit, il faut mieux se taire. Il vaut mieux se tairer, mieux dire rien pendant quelques jours, quelques semaines, je ne sais rien. Mais le texte nous dit qu'au verset 4, qu'à chaque endroit où ils arrivent, ils se mettent à annoncer la bonne nouvelle. Alors regardons qui est allé. Quels sont les croyants qui fuient et qui annoncent la bonne nouvelle? Ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Verset 12, on dit tous, ouais, toute l'Église, fuit tous à l'exception des apôtres. Tous à l'exception des apôtres. Tous sauf, on pourrait dire, les leaders. Tous sauf les responsables de la première Église. Rappelons-nous, les apôtres, on est au début de l'Église, sont les prédicateurs principaux, les évangélistes principaux, les enseignants. Quelques chapitres avant, ils ont dit, il faut pas qu'on délaisse la parole et qu'on a besoin de diacres, de nous entourer de diacres pour le service pratique. C'était, en quelque part, les pros, les experts, les premiers disciples de Jésus-Christ, les témoins, les premiers témoignages à la source, ceux qui maîtrisent vraiment le sujet. Rappelez-vous, Pierre, à la Pentecôte, 3000 conversions. On le sait, c'est pas Pierre, c'est pas son discours, c'est Dieu qui couvre, qui touche les cœurs. Mais ces apôtres sont restés à Jérusalem. Alors dans ce passage, qui est en train de faire, de proclamer, d'annoncer, de diffuser la bonne nouvelle? Ce sont pas les leaders, ce sont pas les experts, ce sont pas les gens les plus formés, ce sont les chrétiens ordinaires. Les chrétiens ordinaires. Et on le voit dans la suite, le message continue à se répandre par l'intermédiaire de tous, de chacun. C'était monsieur et madame tout le monde. Ceux qui ont rencontré Jésus-Christ, qui ont eu leur vie transformée par Jésus-Christ, se sont mis à parler de lui. Des chrétiens ordinaires. Des chrétiens qui disaient sans doute « Regardez, Jésus a changé ma vie !» Et il peut faire la même chose pour toi. Tellement incroyable Jésus-Christ. Et je trouve que c'est vraiment fascinant et encourageant dans un monde où on qualifie tout d'expertise. Moi, le nombre de fois où je me dis « je vais pas témoigner parce que je suis pas qualifié », je laisse ça aux pros, à ceux qui maîtrisent le sujet. Mais nous savons que la parole de Dieu se diffuse par chacun de nous, qu'on soit infirmier, enseignant, artisan, artiste, ouvrier, retraité, étudiant, mère au foyer, des chrétiens ordinaires. Ces derniers temps, j'ai été touché au groupe de jeunes. On a régulièrement des jeunes chrétiens qui invitent des non-chrétiens. Et du coup, il y a toujours un moment donné, on mange ensemble, et il y a toujours un moment donné où il y a des questions, qu'est-ce qu'on vit dans le groupe de jeunes, un jeune qui a une foi et d'autres qui découvrent et qui se questionnent. Et je suis émerveillé comment les jeunes, entre eux, expliquent comment ils découvrent la parole, comment il faut la lire. Ils n'ont pas besoin d'être des experts. Dans la simplicité, ils expliquent à leurs camarades de classe ce qui les anime et j'étais plus d'une fois à côté d'une discussion entre un jeune qui a le feu pour le Seigneur et quelqu'un qui découvre, qui n'en sait pas grand-chose, mais qui a des questions, et avec la simplicité de ce jeune de se dépatouiller. Je trouve que c'était ça, c'est le témoignage simple de monsieur et madame tout le monde. Et nous avons besoin de l'entendre en ce début de l'année. Parce que aujourd'hui, on est dans une culture, oui, il y a l'expert, où on encourage à travailler, à servir, là où on a des compétences, là où on a des dons, là où on a des compétences. Et c'est ce que j'ai déjà dit, parler de Jésus, c'est pas mon don. C'est plus pour les autres. Non, il en est pour chacun. Et on le voit, le résultat, toute la ville est touchée, et notamment aussi par le témoignage de Philippe, bien évidemment. Le royaume de Dieu grandit à cause de chacun d'entre nous. Dieu n'est pas limité par les dons qu'il nous donne. Des chrétiens ordinaires qui ont été transformés. Et on le voit, c'est un mouvement un peu spontané. Enfin, ça a été forcé, ils ont été obligés de quitter Jérusalem parce que les apôtres n'ont pas réfléchi. On va envoyer Philippe là-bas à Samarie. Ah tiens, telle famille. Moi, je trouve que ce serait bien, dans ce village reculé, il y a personne qui témoigne de Christ. Allez, je vous envoie. Non, ils ont dû fuir face à la menace. Ils ont eu peur, probablement, bien évidemment. Mais là où ils se sont retrouvés, ils ont partagé leur foi. C'était pas dans le projet des apôtres, cette dispersion, et c'est cela qui me frappe. Alors c'est vrai, cette année, en tant qu'église, en tant que responsable, que sais-je, on va peut-être proposer des projets en tant qu'église pour témoigner publiquement de notre foi. Mais si on veut voir, et il me semble que la parole de Dieu, elle est claire là-dessus, si on veut voir un vrai réveil dans notre pays, dans notre région, dans nos familles, ça passe par le témoignage des uns et des autres, individuellement, là où le Seigneur nous place. Au gré des situations, au gré des rencontres. Et j'aimerais vraiment que le Seigneur nous touche et nous interpelle sur ce fardeau. On l'a senti pour notre frère qui a partagé ce fardeau de cette collègue. Soyons touchés par ces vies qui vivent sans Dieu. Alors oui, on n'est peut-être pas qualifié, mais prions. Des chrétiens ordinaires. Alors nous, Wittenheim 2024, on vit pas une période de dispersion telle que la persécution telle que nous l'évoque ce texte. Mais quelque part, on est dispersé. On est dispersé. 97% du temps, on est en dehors d'un lieu où on est rassemblé, en dehors d'un groupe de maison. On est dispersé sur nos lieux de travail, dans nos familles. On est dispersé. Dans des contextes de vie différents, je ne pourrais pas intervenir dans votre sphère d'influence. Dans les familles, dans un voisinage, dans une salle de classe, dans un lieu de loisir. Vous êtes, en tant que parents, témoins auprès de vos enfants de la grandeur et de la beauté de Dieu. Alors on est dispersé 95% du temps, peut-être parfois 100% si on peut plus venir. Avec André, on a visité de nos aînés qui sont bloqués, qui restent chez eux. Mais nous sommes église. Nous sommes témoins. Ma prière est que chacun d'entre nous puissions avoir une foi vécue publiquement, là où le Seigneur nous place, nous disperse. Et je crois que le Seigneur voudra nous donner aussi des fruits. Deuxième question, à qui ont-ils prêché? On voit que les chrétiens, verset 1, les chrétiens ont été dispersés dans les régions autour de Jérusalem et dans la Samarie. Verset 4, ils allaient de lieu en lieu, là où ils étaient, où ils ont été témoins. Ils ont une foi publique et ils ont partagé l'évangile notamment à des Samaritains. On l'a déjà évoqué, hein, la Samarie, les Samaritains, juifs et Samaritains, ça s'entendait vraiment pas bien. À cette époque-là, une différence de culture, différence ethnique, il y avait une rivalité, il y avait une antipathie, il y avait une hostilité, parfois c'était même à la haine raciale, il y a vraiment pas de fraternité possible. Si on devait les mettre côte à côte, ils s'écoutaient pas. Et dans ce contexte, ce sont des chrétiens, probablement d'origine juive, qui quittent Jérusalem et qui vont annoncer l'évangile à des Samaritains. Eh ben, bonne chance. Bonne chance. Des gens qui sont pas favorables à vous, qui sont probablement pas ouverts à votre message, à votre amitié. Et pourtant, on le voit, il y a du fruit. Il y a une réponse favorable. C'était le temps de Dieu. Et notre texte au verset 5 introduit Philippe. On a le témoignage de Philippe. On ne sait pas ce que Philippe a prêché à ces Samaritains. J'aimerais savoir ce qu'il a dit pour pouvoir faire ce pont avec ces gens qui étaient hostiles aux Juifs. Comment il a réussi à capter leur attention ? À combien ça devait être difficile, probablement. Dans le texte, on ne sait pas. Alors oui, il y a des miracles, des guérisons qui accompagnent son témoignage, sa prédication. Ça a illustré en tout cas ses paroles et ils ont été rendus attentifs. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'il a dit pour qu'ils puissent rentrer, on pourrait dire, en résonance avec leur âme ? Le texte reste silencieux. Comment il a fait ce pont avec la culture ? On le sait dans d'autres passages, dans Actes, quand ils étaient avec des Juifs, ils prêchaient Moïse, ils prêchaient la loi, ils faisaient le pont avec la relation juive, avec la Grèce antique, Paul faisait le lien avec la culture grecque, avec les Samaritains, ils ont dû faire un lien avec les Samaritains. Mes amis, chaque culture a son point d'accroche. On est dans un contexte, on pourrait dire laïque, post-chrétien, mais notre monde autour de nous a des attentes, a des espoirs, des aspirations à laquelle l'évangile peut répondre, à nous de créer, de chercher les ponts, à chercher ces points de contact. On pourrait réfléchir ensemble, de voir quels sont les questionnements de nos contemporains. Pour illustrer simplement cela, la commission évangélisation de notre union d'église, de nos unions d'église en 2021, a publié un petit rapport et il a dit comment interpeller nos contemporains. Et il y a deux éléments qui ressortaient clairement dans l'enquête. Pour des chrétiens sans arrière-plan évangélique, qu'est-ce qui permettait de rentrer en contact ? Et en fait, le point premier était la relation dans un entourage proche. La relation. Et une relation, et c'était le deuxième facteur, une relation où on fait bon accueil, où on est bienveillant. On parlait de paix tout à l'heure aussi. Le fait d'écouter, de pouvoir se laisser, de pouvoir parler avec quelqu'un, de pouvoir poser des questions, de recevoir un enseignement clair, de pouvoir faire un passerelle, c'est que il y a une relation et que cette relation soit belle et soit construite sur la paix, qu'on ait l'intention de bienveillance. Et c'est ma prière aussi pour notre Église, c'est que nous puissions être des êtres relationnels, bienveillants, qui sachons accueillir, y compris lorsqu'on se rassemble. C'est pas évident, on a pratiquement tous les dimanches des gens, parfois des inconnus parmi nous, mais sachons les accueillir, avec le sourire simplement, pas leur tomber dessus, avec l'Évangile, il faut que tu te repentes et que tu te détournes de tes mauvaises voies, non, que nous sachions les accueillir, les aimer, manifester avec un regard souriant. C'est vrai, on pourrait dire notre contexte autour de nous est dur. C'est pas facile de témoigner. Mais le Seigneur appelle encore. Dans le témoignage quotidien, et pour illustrer mes propos, j'ai eu un contact il y a 15 jours avec un frère, écoutez bien, de 94 ans, qui est un peu bloqué chez lui, il prend soin de son épouse atteinte d'Alzheimer. Et il m'a partagé, parce qu'il souhaite que j'aille en contact et qu'on puisse les accueillir dans l'église. Et par sa maladie, il a été en contact avec soins de jour. Hein, tous les mardis, il allait dans un lieu. Il a été en contact avec une Paulette, 84 ans, qui a donné sa vie au Seigneur. Par son témoignage simple dans le contact, 84 ans. Ça, c'était son premier coup de fil. Quelques jours après, il m'appelle et il me dit « Écoute, on a une jeune fille qui vient régulièrement faire le ménage, et il y a une ouverture, 18 ans, Lila. » Dans notre culture, Dieu agit. Vous imaginez, 84 ans, on a roulé sa bosse, et 18 ans. Dieu agit. Ayons de l'intérêt pour l'autre. Parce que cet homme, et je l'ai senti dans sa parole, il a de l'affection pour son prochain, qu'il côtoie. Interventions-nous. Soyons des influenceurs. Par nos vies, nos paroles, sachons accueillir. Troisième question, qu'est-ce qui a été prêché ? Qu'est-ce que les personnes dispersées ont partagé ? Je le disais, on n'a pas le détail, mais on a le résumé, verset 4. Ils annonçaient la bonne nouvelle de la parole. Ils annonçaient l'évangile. On a le court résumé. Ce qui rend le christianisme unique, c'est la bonne nouvelle. Ne l'oublions pas, la bonne nouvelle. Très différent de toutes les autres religions, des façons de penser de ce monde. Le christianisme, notre foi en Dieu est unique. Fondamentalement, c'est une bonne nouvelle qui est appelée à être partagée. Pas des bons conseils à transmettre, une bonne nouvelle. Parce que les religions, c'est ça, c'est des conseils, c'est une liste de choses à faire pour s'approcher de Dieu. Et lorsque vous ne croyez pas en Dieu, pour être une personne respectable, quelqu'un d'important qui a du sens à sa vie, voilà toute une liste de choses à faire. Mais la bonne nouvelle et notre foi, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et c'est très important. N'a rien à faire, Dieu a pourvu. Le christianisme n'est pas une liste de choses à faire, c'est une bonne nouvelle, une très bonne nouvelle. Il y a 2000 ans, Christ est venu, il nous a vu notre incapacité à être des personnes qu'on voudrait être. Il est descendu pour cela. Et malgré nos efforts pour atteindre Dieu, ou pour atteindre un idéal, nos efforts moraux, rituels, religieux sont complètement incapables de donner une saveur, un goût à notre vie. Et Dieu est venu en Jésus-Christ. Il a tout fait ce qui est nécessaire. Ça, c'est la bonne nouvelle. Le christianisme n'est pas une liste de choses à faire pour que Dieu nous accepte, mais c'est essentiellement l'annonce de quelque chose qui a été fait pour moi, pour toi. Et je crois qu'on ne se lassera jamais d'annoncer devant vous, dimanche après dimanche, avec la scène de cette bonne nouvelle, de chanter l'évangile. La différence est énorme, c'est l'évangile, la personne de Christ. Verset 5, Philippe prêche quoi ? Il prêche le Christ. Que nous puissions être cette année une église encore qui prêche le Christ. Ensemble, proclamons publiquement Jésus-Christ. Gardons ce message. Et Jésus dira dans Jean 6, 45, « Ma bouche exprime ce dont mon cœur est plein. » Est-ce qu'on a l'évangile soudé aux tripes, à notre âme, à notre cœur ? On partageait avec mon beau-frère. On se disait, mais pourquoi nos frangins, ils n'ont pas découvert l'évangile et moi ? Mais on a senti cette joie, ce feu, parce qu'on se dit, mais merci Seigneur, j'ai rien pu faire, j'ai rien mérité de plus que... C'était sa grâce, c'était cette bonne nouvelle. Je suis pas meilleur que ma frangine, au contraire. C'est la grâce, c'est la bonne nouvelle qui un jour m'a saisi, qui m'a fait capituler. Là, il y a toute la différence. La joie d'un fardeau déposé, débarrassé. Une belle citation de Buyan qui a fait le voyage du pèlerin. Chargé du fardeau insupportable du péché, je n'avais ni trêve ni repos. Mais enfin en ce lieu, ô bonheur ineffable, je trouve un terme à tous mes maux. La bonne nouvelle, c'est un terme à tous nos maux. Alors c'est vrai, ça galère encore ici-bas. On vit des choses compliquées dans nos vies. Mais on peut quand même chanter au bonheur ineffable parce que on a le repos en Jésus-Christ, dans la bonne nouvelle. Et si on peut crier, chanter au bonheur, ben c'est parce qu'il y a la puissance du salut pour quiconque croit. C'est ce qui est venu briser ce qui en nous n'avait aucune valeur. Et quel a été le résultat ? On l'a déjà entendu, hein, la fin. C'est la joie. Le message s'est répandu au verset 8. On a ce beau verset. Il y eut une grande joie dans cette ville. De la joie. Une grande joie. Alors on pourrait se dire, quelques versets au-dessus, il y a la joie par les guérisons, par les boiteux, par les délivrances, mais c'est incroyable. Mais c'est à cause de l'annonce de la bonne nouvelle. Verset 12, un peu plus loin, on l'a pas lu, on voit que beaucoup de gens en Samarie, qui étaient hostiles aux Juifs, on su entendre ce message dans l'évangile et ils ont été baptisés. Ça donne de la joie un baptême. Dimanche prochain, Dieu voulant, on va entourer Eric dans le baptême. Le baptême, c'est une joie de voir qu'une vie a été arrachée aux ténèbres. Ça donne de la joie. Il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. C'est vrai, croire en Jésus, ça donne une joie extraordinaire. Et ça a été mon expérience, c'est mon expérience de me replonger dans cette bonne nouvelle. Le monde offre des pseudo-joies, et je vois trop de chrétiens qui s'attachent à des pseudo-joies que offre le monde, qui sont illusoires, qui vont nous rendre insatisfaits, nous rendre malheureux. Et je lutte avec ça. Je parlais de mon canapé, c'est toujours un sujet, une illustration. On pense parfois que notre joie se trouve dans un canapé qui est adapté. Ben non. Si on a goûté Christ, si on a goûté Christ? Est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut partager, qu'on aimerait partager? Voilà pourquoi nous devrions être une église qui vit sa foi publiquement. Nous puissions avoir des vies qui aient une foi publique. Je dis pas dans marteler, mais dans une foi qui montre que nous sommes des enfants rachetés, des hommes qui ont été touchés par une bonne nouvelle, pour une joie que le monde ne peut pas donner. Et je crois qu'on a en tant qu'Église besoin de s'encourager à avoir cette foi, ce premier amour. Alors c'est vrai, on va être parfois dans des contextes de rejet, de moquerie, d'insultes. Comment on fait pour surmonter de telles barrières? C'est pas facile. Je sais pas comment les chrétiens, on nous dit pas tout ce qu'ils ont vécu, comment ils se sont ressentis à devoir quitter la ville de Jérusalem, peut-être ils habitaient depuis toujours, et de se retrouver dans un bled perdu, on le sait pas. Comment on fait pour surmonter cela? Mais il y avait une joie, ils ont partagé, quand ça déborde de nous. Et on a envie, quand cette bonne nouvelle nous travaille, nous encourage, nous transforme, nous façonne, ça donne envie de la partager, de ne pas la garder pour soi. C'est pour ça que je disais qu'en tant que chrétien, on peut pas se limiter à notre sphère privée. On a Ambre, quand on a un petit bébé, on a envie de le montrer à tout le monde. Quand on est chez les collègues, on a envie de montrer. On est fiers de nos enfants et de plein de choses comme ça. C'est un peu la même chose avec le Seigneur Jésus. On devrait être fiers de pouvoir le partager en simplicité. Et pour un nouveau chrétien, il n'y a souvent pas de barrière. Il le dit facilement aujourd'hui. Avec les années, parfois, on se tasse à cause des coups, à cause des moqueries, peut-être à cause de l'opposition et de ces cœurs durs en face de nous. Mais regardons à la joie de l'Évangile, à la joie qui découle de l'Évangile. C'est la joie qui nous pousse à parler en simplicité. On l'a entendu tout à l'heure dans certains témoignages. En simplicité, nous sommes appelés à témoigner notre foi. Je laisserai encore un témoignage de mon frère David, David, qui travaille maintenant pour la mission Porte Ouverte auprès des chrétiens persécutés. Il me partageait un témoignage d'un frère qui s'est converti, un haut responsable musulman, enseignant dans la religion musulmane, dans l'islam. Et c'est un pays où les chrétiens, ils peuvent que occuper les travaux les plus bas, du style nettoyer les toilettes, nettoyer les rues, balayer les rues. Et il se trouve que cet homme a marché dans sa ville pour se rendre sur son lieu de prière, son lieu où il enseigne, et il croise un chrétien qui balaye en sifflotant, en chantant avec joie. Et voilà, il voit qu'il fait ce travail, voilà, ingrat avec le sourire, et ce gars lui donne du coup une pièce pour le remercier, parce que voilà, en tant que bon musulman, on est généreux, même si c'est parfois notre ennemi. Et ce balayeur lui dit: est-ce que je peux prier pour vous? Et il a prié en toute simplicité, il a pas parlé de Jésus-Christ, il a simplement demandé à Dieu de le bénir et de faire une vraie rencontre avec cet homme. Cet homme, des années après, s'est converti, ce haut dignitaire, ce haut responsable, et le Seigneur lui a rappelé que Dieu avait répondu à la prière toute simple, qui a duré une fraction de seconde, sur un trottoir, dans une ville paumée, et que le Seigneur l'avait appelé, le Seigneur l'avait racheté. Parce que cet homme était émerveillé de la bonne nouvelle qui était sur son cœur. Il a balayé avec joie, avec le sourire. Je terminerai, vous l'avez peut-être vu, mais c'est vrai que j'aurais pu l'expliquer avec les enfants, mais cette affiche-là, hein. Alors l'église, c'est le bocal. Que votre local ne soit pas un bocal hermétique, fermé, là, on se mélange surtout pas. Alors c'est vrai, c'est transparent, mais les gens autour, les poissons autour, ils savent pas trop ce qui se dit, hein. Il y a le prédicateur avec la cravate, là, et la Bible. Ne soyons pas des chrétiens isolés, enfermés, dans notre bocal, de peur de nous mélanger. Je terminerai. C'est Jésus qui parle, je ne te demande qui prie cela, son Père, je ne te demande pas de les retirer du monde, c'est vrai, ce serait parfois beaucoup plus simple, mais de les préserver du mal. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi aussi envoyés dans le monde. Alors que ce soit vraiment ma prière pour cette année qui s'ouvre, que nous puissions avoir, premier axe, cette foi publique.